Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est un meurtre sordide, planifié et exécuté avec les moyens d'un État. Le 2 octobre dernier, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi entrait dans le consulat de son pays à Istanbul pour ne jamais en ressortir, assassiné. Son corps n'a toujours pas été retrouvé. Au-delà de l'horreur et de la gravité des faits, un journaliste tué dans une représentation diplomatique par des agents de son pays en mission. L'affaire a aussi une dimension politique et diplomatique. Le pouvoir turc a clairement distillé au compte-gouttes ces informations et ses mises en cause de l'Arabie Saoudite. Recep Tayyip Erdogan utilise-t-il l'affaire Khashoggi pour prendre le leadership du monde musulman? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. David Rigoulet-Rose, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur attaché à l'IFAS, l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, auteur de Géopolitique de l'Arabie Saoudite, c'est chez Armand Collin. Et Guillaume Perrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, reporter, ancien correspondant du journal Le Monde en Turquie, auteur de Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, c'est aux éditions Solin, Actes Sud. L'affaire Khashoggi est abominable, elle est très grave, un journaliste assassiné par strangulation dans une représentation diplomatique, vraisemblablement par des agents en service commandé de son pays, son corps démembré et peut-être même dissous dans l'acide. Tout ça, ce sont des informations qui ont été livrées au fil des jours, depuis un mois et demi, par les autorités turques. Pourquoi cette façon de procéder au compte-gouttes, David Rigoulet-Rose?
Ah oui, il y a une scénarisation incontestable depuis le début. Il y a d'abord les premières révélations ont été distillées de manière très très discrète via par voie de presse essentiellement, avec des supports des journaux pro-gouvernementaux comme Sabah ou des agences comme Anadolu. Et puis ça progressivement des proches du président Erdogan ont relayé aussi un certain nombre d'informations de plus en plus précise, et au fil des jours, effectivement, d'une certaine manière, il s'agissait de, dans la stratégie vraisemblablement d'Ankara, de mettre en difficulté les versions successives avancées par Riyad, et ce qui a obligé effectivement Riyad à, in fine, à reconnaître quasiment ce qui avait été annoncé dans les éléments relayés par voie de presse.
Cette scénarisation, Guillaume Perrier, vous y attendiez tout au long de l'affaire, elle vous a surprise?
Oui et non, parce que il y a toute évidence un jeu politique de la part de la Turquie, un jeu politique, comme a dit Jean-Yves Le Drian l'autre jour.
Je vais préciser, je vous coupe un instant. On a programmé cette émission avant la polémique entre Jean-Yves Le Drian et le gouvernement turc. Donc, je sens que ça va venir. On va pas de votre part, mais on va nous dire qu'on est la voix de la France. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, allez-y, continuez.
Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a de toute évidence une stratégie de communication, en tout cas, une volonté de communiquer sur cette affaire Khashoggi de manière assez limpide de la part des autorités turques. Les services de renseignement sont à la manœuvre et distillent ces informations avec l'aide de certains médias proches du pouvoir qui servent de caisse de résonance. On a vu également que la presse internationale avait quand même été sollicitée, avait obtenu certains documents, certaines révélations. Donc on voit bien qu'il y a une stratégie de communication derrière tout ça. Dans quel but? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors évidemment, c'est pas pour la liberté de la presse, c'est pas pour la justice envers les journalistes, puisqu'on sait que la Turquie reste le pays où il y a le plus de journalistes en prison. Aujourd'hui,
entre 200 140... et 300 selon RSF.
On est autour de 140. Enfin, il y en a beaucoup, on ne sait même plus combien exactement. Il y a quand même une histoire aussi, des assassinats de journalistes en Turquie, des assassinats politiques. Et il faut se rappeler qu'il y a une dizaine d'années, il y avait quand même des vagues d'assassinats, notamment d'opposants tchétchènes par la Russie, vraisemblablement, d'opposants iraniens également à une certaine époque, sans que la Turquie, si vous voulez, n'en fasse à chaque fois une affaire d'État. Donc il y a évidemment là un contexte politique particulier entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, un enjeu politique et stratégique pour Erdogan qui, évidemment, le conduit à mener cette stratégie.
David Rigoulet-Rose, vous l'avez dit, ce sont les autorités turques qui parlent, des proches de Recep Tayyip Erdogan, mais Recep Tayyip Erdogan lui-même, il reste un petit peu en retrait. Quand il parle notamment devant le Parlement turc, il ne fait pas lui-même de révélation, il est assez sobre finalement. Le message de cette sobriété, c'est quoi ?
Oui, incontestablement, de la part du président turc, il y a l'idée de mettre en difficulté les autorités saoudiennes, sans aller trop loin. C'est-à-dire que, quand, notamment quand il fait le discours effectivement au Parlement, à destination principalement de l'AKP, mais pas uniquement, il y a l'idée de revenir sur le détail des opérations, mais sans nommer explicitement un commanditaire final éventuel, même si récemment il a évoqué les plus hautes autorités saoudiennes. Il a insisté sur la relation personnelle qu'il maintenait avec le roi Salman, puisqu'à plusieurs reprises il a dit qu'il l'avait eu au téléphone.
Donc le roi Salman, le père du prince héritier.
Et qu'à aucun moment, pas une seconde, il n'envisageait que le roi Salman ait pu être partie prenante de cette sordide affaire, avec évidemment en dessinant en creux d'autres responsabilités, mais en prenant bien soin de ne nommer personne. Donc c'est un animal politique, il sait très bien ce qu'il fait, parce que manifestement, il veut pas aller trop loin. On est dans le cadre d'un grand marchandage, vraisemblablement. Et donc, il espère engranger des gains géopolitiques, vraisemblablement. Et donc, il s'agit pas de déstabiliser totalement le royaume saoudien.
Il s'agit de garder un canal de communication, Guillaume Perrier ?
Oui, c'est tout l'intérêt de cette scénarisation, évidemment. En feuilletonnant de cette manière, à la façon d'une série pour Netflix, on tient le spectateur en haleine et on tient aussi ouvertes les négociations avec à la fois l'Arabie Saoudite et puis tous les acteurs qui sont dans cette partie, puisqu'il y en a beaucoup d'autres.
Manifestement, le but, c'est de mettre en difficulté le prince héritier Mohamed Ben Salman. Pourquoi, David Rigoulet-Rose ?
De toute façon, ça renvoie à une rivalité entre les deux capitales, entre Riyad et Ankara, en tout cas entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, sur la question du leadership sunnite. Puisque même si les relations, il y a un dénominateur commun, effectivement, qui les a rapprochés ponctuellement, notamment à la faveur de la crise syrienne et de la guerre qui s'en est suivie, mais il y a quand même historiquement une rivalité très importante, d'autant plus que cette rivalité s'exprime à travers des options, notamment l'option des frères musulmans, par le président Erdogan, avec l'axe entre le Qatar et la Turquie, qui s'oppose évidemment à l'Arabie Saoudite et aux Émirats. Donc, il y a une rivalité géopolitique régionale. Et là, dans le cadre de cette affaire, vraisemblablement, le président Erdogan a vu l'opportunité qu'il pouvait saisir pour justement fragiliser son rival en termes de leadership sur le monde sunnite.
Guillaume Perrier, est-ce qu'il faut chercher les raisons de tout cela dans l'histoire ? Il faut le rappeler, hein, la péninsule arabe a été sous domination ottomane. C'est ce que Recep Tayyip Erdogan a en tête ?
Bien sûr, et il n'arrête pas de le rappeler, évidemment. Il y a une rivalité historique, je dirais, entre les deux pays depuis la chute de l'Empire ottoman. Il y a cette nostalgie aussi du califat ottoman sur le monde musulman qui ressurgit avec ce néo-ottomanisme des proches d'Erdogan. Donc, si vous voulez, cette rivalité, elle est ancienne. Elle était déjà manifeste au moment des printemps arabes en 2011, en 2012. Effectivement, quand la Turquie s'appuyait sur cette arc des frères musulmans face à un pouvoir saoudien qui était à l'époque affaibli, Erdogan avait déjà cette ambition, cette volonté de prendre le leadership du monde sunnite, évidemment. Alors, aujourd'hui, la donne est différente parce qu'il a face à lui, effectivement, un jeune prince héritier de 35 ans, à peine plus. Et le calcul que fait Erdogan face à ce jeune prince, c'est de se dire que face à lui, il risque d'avoir un pouvoir saoudien très anti-turc pendant le prochain demi-siècle. Donc, il y a là un enjeu stratégique, un enjeu d'avenir pour les relations entre les deux pays.
Oui. Mohamed Ben Salman a à peine plus de 30 ans, hein, ce qui signifie qu'effectivement, il pourrait diriger le pays pendant les 50 prochaines années. Et ça, David Rigoulet-Rose, Recep Tayyip Erdogan, il aimerait bien pouvoir s'en passer.
Ah, ça lui pose incontestablement un problème parce que, justement, dans le cadre de ce leadership sunnite, il y a la volonté d'Erdogan de réaffirmer cette possibilité pour les Turcs et aussi, vraisemblablement, d'assouplir le blocus qui pèse sur un pays qui l'aide, hein, puisqu'il y a un lien quand même très fort avec le Qatar. D'ailleurs, on peut noter que lors de la crise sur la livre en août dernier, le Qatar s'était précipité pour abonder financièrement.
Annoncer des investissements
justement pour aider la Turquie d'Erdogan. Et inversement, quand le Qatar a été mis en difficulté, mis au banc justement par l'Arabie Saoudite et les Émirats.
Avec le blocus. Hein.
avec le blocus, le Qatar a réaffirmé sa présence militaire, puisqu'il a une base au Qatar.
Donc, la Turquie.
La Turquie, oui, il y a une base au Qatar.
Et protège le palais.
Et protège, effectivement. Donc, on voit bien qu'il y a, un lien organique qui est fort, qui est marqué, et qui s'appuie sur cette identité frériste. Donc, à contrario, effectivement, des Saoudiens.
Oui, ce sont deux visions politico-religieuses qui s'opposent, hein. Le wahhabisme d'un côté, avec une monarchie quasiment de droit divin, on peut dire ça comme ça, et l'islam politique plus démocratique, ça c'est une dimension importante aussi, Guillaume Perrier.
Oui, bien sûr, c'est ces deux écoles qui politiquement que tout oppose, mais je crois que c'est aussi aujourd'hui une vraie ligne de fracture au Moyen-Orient, hein, puisque on a une Arabie Saoudite proche de l'Égypte. Évidemment, on sait que le régime de Sisi est absolument honni par Erdogan, notamment puisqu'il a destitué Morsi et les frères musulmans. On a une Arabie Saoudite qui s'est rapprochée d'Israël ces dernières années, alors qu'on sait que la Turquie entretient de mauvaises relations avec Israël en ce moment.
Par l'entremise des États-Unis, voilà. D'ailleurs. Hein,
oui, également. Et donc il y a une vraie ligne de fracture et chacun est aujourd'hui dans un camp extrêmement opposé. Il y a une vraie dimension stratégique et c'est vrai aussi que la Turquie, ces dernières années, a multiplié les points d'ancrage. Hein. On parlait d'une base militaire au Qatar qui est très importante. Ils ont signé un accord militaire avec le Koweït la même semaine que celle de l'assassinat de Khashoggi. Il y a aussi des liens avec Oman. Donc on voit une présence militaire turque dans toute la région du Golfe, également en mer Rouge avec cette base en Somalie, et tout ça gêne beaucoup l'Arabie Saoudite militairement.
Politiquement, wahhabisme, islam politique, frères musulmans, ces deux visions, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, David Rigoulero, ces deux visions qui diffèrent de quelle manière ?
Ce qui pose un problème pour les pétromonarchies, en tout cas pour un pays comme l'Arabie Saoudite de culture wahhabite, c'est la modalité électorale. C'est-à-dire que la logique frériste, elle s'est exprimée d'ailleurs à la faveur des printemps arabes, c'était l'arrivée au pouvoir via une logique électorale qui est un cauchemar pour les monarchies, les pétromonarchies fondées sur un principe absolutiste. Et donc, effectivement, il y a une forme de contre-révolution qui a été financée à la fois par les Saoudiens, par les Émirats, qui a été fructueuse dans un certain type de pays, notamment, par exemple, l'Égypte que vous évoquez, avec le président Sisi qui est venu au pouvoir grâce à l'argent, effectivement, saoudien et des Émirats. Et donc, il y a eu une forme de reflux, effectivement, de cette dynamique frériste qui avait fait une OPA, finalement, sur le processus électoral des printemps arabes. Et là, on se retrouve avec une nouvelle étape, c'est-à-dire que Erdogan voit une nouvelle chance, d'une certaine manière, pour redynamiser cette logique frériste au détriment, justement, de ceux qui avaient cru pouvoir la circonscrire.
Guillaume Perrier, dans votre livre, dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, vous dites que depuis le coup d'État manqué de 2016, le président turc devient de plus en plus mystique. Est-ce que cette dimension est importante pour comprendre ce qui se passe actuellement ?
Je crois pas. Je crois pas qu'on soit dans cet ordre des choses. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans une stratégie géopolitique, un jeu d'échecs régional, dans lequel la Turquie essaye d'exploiter une formidable opportunité. Erdogan est d'abord un opportuniste. Il se saisit d'opportunités politiques pour avancer ses pions. Et là, il a très bien vu la faiblesse de son principal rival saoudien et il en profite d'une manière assez implacable.
Est-ce que l'accalmie au Yémen depuis 3 jours et l'évocation de pourparlers inter-yéménites a un lien avec ce qui s'est passé à Istanbul. Est-ce que cela influe sur le jeu diplomatique, David Rigoulero ? Est-ce que Mohamed Ben Salman n'est pas obligé de donner d'une main ce qu'il ne donne pas de l'autre ? Quelque chose comme ça ?
Alors, il y a probablement un lien indirect, on va dire un effet collatéral qui pourrait être bénéfique aux yéménites si d'aventure la situation conflictuelle diminuait. Je dirais que ce lien, en fait, il s'est fait à la faveur effectivement de l'affaire Khashoggi. On peut noter que le journaliste était un des critiques ouverts de la gouvernance saoudienne et tout spécialement de la guerre au Yémen.
De l'intervention
au Yémen. Et donc, effectivement, le fait que cette affaire ait pris une ampleur considérable avec la caisse de résonance américaine a probablement joué aussi dans la perception qu'on avait du conflit. Ce qui explique, et compte tenu de la fragilisation de la gouvernance saoudienne, ça induit effectivement un certain nombre de modifications dont on voit les effets aujourd'hui.
Il y a eu des pressions américaines, Guillaume Perrier, sur cette affaire pour essayer de faire peut-être un peu, pas oublier, parce que ça paraît difficile quand même l'affaire faire à Khashoggi, mais d'orienter le jeu diplomatique ailleurs.
C'est ce qui se murmure beaucoup en Turquie ces jours-ci, en tout cas encore pas plus tard qu'aujourd'hui, puisque la chaîne américaine NBC a révélé que Donald Trump avait demandé à ses services d'étudier la possibilité d'échanger d'une certaine manière l'imam Fethullah Gulen, hein, le prédicateur qui est aux États-Unis et qui est réclamé par Erdogan, contre un certain silence, en tout cas, des prétentions turques un peu revues à la baisse. Donc, il y a vraisemblablement des marchandages politiques autour de cette affaire. Dans quelle mesure, on va le savoir. Mais ce qui est certain, c'est que la Turquie menace de plus en plus clairement aujourd'hui de publier les enregistrements du meurtre dans le consulat saoudien.
Oui, David Rigoulero, jusqu'où ça peut aller ces révélations en pointillés Tayyip Erdogan n'obtient pas ce qu'il souhaite manifestement.
Alors, c'est déjà allé très loin quand même, parce que compte tenu
on est déjà assez loin. Hein,
on est déjà allé quand même très très loin, avec des éléments très précis sur les modalités de l'assassinat, sur les attendus potentiels. Donc effectivement, pour l'instant, on est dans une phase un peu transitionnelle d'une certaine manière, parce que les autorités turques ont demandé une enquête internationale qui permettrait de lever les hypothèques justement saoudiennes sur le jugement des personnes arrêtées.
Et refusées aujourd'hui
Et refusées, logiquement, effectivement, par l'Arabie Saoudite, mais c'est une manière de mettre une pression supplémentaire. Et en même temps, le président Erdogan sait très bien que les informations qu'il a à sa disposition, il les a obtenues de manière pas forcément très orthodoxe, on va dire, entre guillemets, et se pose le problème...
Il y a clairement l'espionnage d'une représentation diplomatique.
Voilà, de l'article 31 de la Convention de Vienne sur l'inviolabilité attendue des enceintes diplomatiques. Donc, évidemment, il a des informations qu'il transmet, mais en même temps, tout ne peut pas être rendu public. Et donc, chacun, finalement, se tient à un certain niveau. Et c'est ce qui rentre dans ce grand marchandage qui constitue un triangle, en fait, entre Washington, Riyad et Ankara.
La question de comment est-ce que l'Iran, par exemple, dans la région, voit cette situation, selon vous, Guillaume Perrier?
Alors écoutez, moi ça pour le coup j'ai pas tellement d'informations sur cet aspect.
On peut noter que l'Iran fait preuve d'une très grande discrétion sur l'affaire, sans perdre une miette évidemment des conséquences potentielles et de l'avantage que lui pourra en tirer de manière très indirecte, notamment dans l'affrontement qu'il a avec les États-Unis, parce que son principal ennemi, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, se trouve fragilisé. Or l'Arabie Saoudite était le pilier quand même de la stratégie de Donald Trump par rapport à l'Iran. Donc l'Iran regarde ça avec un intérêt évident, même si c'est avec circonspection, mais avec un intérêt évident par rapport à sa propre situation.
Alors, on est à clair depuis le début, Recep Tayyip Erdogan essaie de prendre le leadership sur le monde musulman sunnite. Est-ce qu'il peut le réussir, Guillaume Perrier?
Je crois que c'est un objectif un peu ambitieux.
Parce que jusqu'à nouvel ordre, la Mecque, c'est encore en Arabie Saoudite, par exemple. Hein.
Absolument, oui. Même si il y a aussi des critiques qui existent, hein, en Turquie sur cet aspect-là. Mais je crois que le leadership sur le monde musulman ou sur le monde sunnite, c'est quelque chose d'ambitieux aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le monde musulman? Est-ce qu'il y a une unité du monde musulman? Certainement pas. On en a parlé, il y a des divisions profondes géopolitiques au sein du Moyen-Orient. Hein, donc Je crois qu'on est déjà dans une affirmation un peu ambitieuse,
mais une position prépondérante en tout cas.
Une sorte, comme je disais tout à l'heure, de nostalgie pour le califat ottoman, qui est aussi une affirmation à travers ça du nationalisme turc et qui pour Erdogan est d'abord un instrument de domination politique en interne avant de se projeter sur la région. Donc je crois qu'il y a d'abord cet aspect-là. Et puis, une deuxième chose, c'est que pour faire figure de modèle, comme la Turquie pouvait éventuellement y prétendre dans les années 2010-2011, il faut quand même avoir un peu mieux réussi sa propre démocratisation. On voit bien qu'aujourd'hui, la Turquie peine à faire figure de modèle, même pour les pays arabes, même pour les pays du Moyen-Orient, et que finalement, la Turquie est aujourd'hui un modèle autoritaire comme les autres pays de la région.
Merci beaucoup, Guillaume Perrier. Merci à vous également, David Rigoulet-Rose. C'est déjà terminé. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce, Déborah Lepage à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique magazine. Participez au débat du jour également sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, bonjour chez vous.